Et ce matin, il y a notre sœur Ginette qui est à l'arrière, Ginette Bibeau, qui est ici en chaise roulante et qui s'apprête, qui a un cancer en phase terminale et qui s'apprête là bientôt à aller rencontrer le Seigneur. Et je voudrais prier. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je te remercie pour cette maman. Ça aurait pu être la mienne, ma maman. Seigneur, je te demande de prendre soin d'elle dans les derniers jours de sa vie. Je te demande de lui préparer une place au ciel. Merci, Seigneur Jésus. Merci que tu l'attends dans ton ciel. Puisses-tu la rassurer, qu'elle puisse partir en paix, aller te rejoindre. Prépare le cœur aussi de ceux qui restent autour d'elle, son époux, ses enfants. Merci, Seigneur Jésus, pour te soucier de cette famille. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, si je demandais à quelqu'un, c'est qui la femme parfaite pour toi? Il y a peut-être quelqu'un dans la salle ici qui me dirait, ben cette femme-là, je vais pointer quelqu'un, mais personne ne l'a vu. Il me dirait, ben c'est quand j'arrive d'une journée de travail où j'ai vraiment travaillé dur, ben j'aimerais qu'à la maison, je puisse enlever mes chaussures, qu'elle puisse m'apporter mes pantoufles, qu'elle m'installe dans mon fauteuil Lazy Boy, qu'elle m'apporte un petit verre de Porto, qu'elle me donne mon journal, puis qu'elle aille à la cuisine me préparer mon mets préféré, OK? Il y en a un autre ici, quelque part, qui me dirait peut-être, cette femme-là, cette femme parfaite, bien moi, je la verrais comme première ministre du pays. Là, les problèmes de guerre en Irak, là, les soldats seraient rapatriés au pays au plus vite. Et puis, le problème de chômage au pays, là, le 10% de chômage, elle ramènera ça, elle, à 1% si elle était à la tête du pays comme première ministre du pays. Et puis, la faim dans le monde, là, elle irait voir les autres chefs des autres pays, puis elle les convaincrait de dire, hey, les pays riches, là, on va subvenir, on va mettre une petite taxe de plus, quand même qu'on mettait une petite taxe de plus. On a déjà pas mal les taxes, on en met une petite de plus, puis le problème de faim dans le monde, c'est fini. Tous les enfants mangeraient à leur faim partout sur la petite belle petite boule bleue. Ça serait la... Là, j'ai parlé des deux extrêmes. Un extrême, un type de femme parfaite, et un autre extrême de type de femme parfaite. Peut-être la vérité là-dedans est peut-être quelque part entre les deux. La parole de Dieu, la Bible, nous parle d'une femme parfaite, d'une femme idéale, d'une femme vertueuse qu'on retrouve dans Proverbe, comment? Il y en a qui ont lu le Proverbe 31. Il y en a qui connaissent des femmes vertueuses. Ce matin, deux défis, si l'on veut. Je vous propose deux défis. D'abord, pour vous, mesdames, voici. Dieu désire que tu sois une femme vertueuse. Maintenant, pour ceux qui entourent ces femmes vertueuses-là, voici une autre grande vérité. C'est que Dieu désire que tu les vois, ces femmes vertueuses-là, que tu les approches et que tu leur dises qu'elles sont vertueuses. Que tu leur dises, que tu les louanges. Dieu veut qu'on le fasse. C'est ce qu'on va voir ce matin, ces deux grandes vérités. Dieu veut que toi, qui es une femme, que tu aspires à être cette femme vertueuse. Prions. Seigneur Jésus, notre grand Dieu, je veux te remercier pour, d'abord, pour la mère que tu m'as donnée, qui a élevé trois garçons. Merci pour cette maman. Merci pour toutes les mamans qui sont ici dans cette salle. Je te prie d'être avec elles ce matin en particulier. Je te prie de leur faire du bien, d'être tout près d'elles, qu'elles puissent sentir que tu les aimes, que tu es avec elles, et que tu veux cheminer avec elles, afin de faire de ces femmes des femmes vertueuses, selon ton désir, Seigneur Jésus. Et que tu désires aussi que nous autres autour, tu désires qu'on les reconnaisse, ces femmes-là, qu'on les approche et qu'on leur dise, qu'on reconnaît qui elles sont, ce qu'elles ont fait, et qu'on puisse les louer. Merci, Seigneur Jésus, de m'accompagner ce matin à travers ce proverbe 31. Amen. Amen. C'est une voix d'un enfant qui a dit Amen. C'est beau. Amen. Proverbe 31. Tu peux le dire quand tu veux. Amen. Proverbe 31. Le verset 1. Parole du roi Lemuel. Bien, le roi Lemuel, on ne le voit à nulle part dans les Écritures ailleurs que dans ce seul verset. Parole du roi Lemuel. Plusieurs commentateurs, et selon la tradition juive, il serait question du roi Salomon. D'ailleurs, c'est Salomon qui écrit tout le livre des Proverbes, et plusieurs personnes croient que le roi Lemuel référerait au roi Salomon. Parole du roi Lemuel, sentence ou parole par lesquelles sa mère l'instruisit. Verset 2. Qu'est-ce qu'elle dit, cette mère? Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Fils de mes entrailles, ta mère t'a porté pendant 9 mois. Y a-t-il des personnes ici que leur mère n'a pas porté pendant 9 mois? Y en a-t-il des bébés éprouvettes ou je sais pas? Ta mère t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? On a vu ce matin les trois parents qui étaient ici et qui étaient là avec leur poupon, qui étaient fiers de présenter leur poupon. La mère est fière de son enfant et elle en fait l'objet de ses vœux. Elle veut pour son enfant ce qu'il y a de meilleur. Quand l'enfant arrive au monde, elle le prend, elle le met sur ses seins au chaud et elle lui donne le lait maternel. C'est le meilleur lait pour son enfant. Quand son enfant grandit un petit peu, elle va aller à l'épicerie sur les tablettes, elle va regarder les petits pots de nourriture pour bébé, puis elle va lire que c'est marqué dessus pour être sûre que ça soit la meilleure qualité pour son enfant. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Quand son enfant va grandir, elle va s'assurer qu'il y a un environnement idéal pour lui, qu'il ait une bonne formation, une bonne école, qu'il grandisse bien, qu'il se développe bien, elle va être soucieuse de lui. Et c'est l'objet de ses vœux. Quand son enfant va être rendu plus grand, il va se diriger vers un travail, un emploi, elle va être inquiète, elle va dire qu'elle voudrait chercher à avoir le meilleur type d'emploi pour son enfant. Puis quand ils sont jeunes, si c'est un garçon, commence à ouvrir les yeux vers les jeunes filles, ah ben là, la mère, là, elle s'inquiète, là. Parce que là, elle sait que c'est grave, là, qu'est-ce qui va se passer. Il va poser un geste, puis ça va être, il va avoir des conséquences pour toute sa vie. Elle voudrait bien que son gars trouve la femme vertueuse. N'est-ce pas, mesdames? Oui. Savez-vous, il y a un lien très, 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 très fort entre la mère et son enfant. Même le gars qui fait l'armée, qui s'en va comme soldat dans la guerre, et lorsqu'au combat, s'il est atteint mortellement, puis il sait qu'il y en a juste pour quelques minutes à vivre. Ils ont fait des psychologues dans l'armée, ils ont fait des recensements, puis ils ont trouvé que le mot qui était le plus souvent prononcé à l'article de la mort de ces colosses soldats, c'était « mom, maman, mère », qui revenait dans leurs dernières paroles. C'est pour signifier à quel point le lien est fort entre la mère et son enfant, ou entre l'enfant et sa mère. À ce moment-ci, j'aimerais ouvrir une parenthèse ce matin, parce qu'on va parler beaucoup de la femme, et j'aimerais inclure toutes les femmes. Il y a des femmes qui ne seront peut-être jamais mères, et j'aimerais les inclure dans ce qu'on va parler ce matin. C'est la fête des mères, mais en même temps, je m'adresse à toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont célibataires depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a des femmes qui ont été mariées, dont leur mari est décédé. Il y a d'autres femmes qui ont vécu une séparation ou un divorce. Il y a des femmes qui ont vécu des tragédies dans leur vie. Il y a des femmes qui ont eu un avortement. Il y a des femmes qui ont perdu leur enfant en couche, avec une fausse couche. Il y a des enfants, des femmes, qui ont vécu des tragédies dans leur vie, perte d'un enfant en bas âge ou autre. Je veux inclure ce matin toutes les femmes. Et puis, je suis convaincu que Dieu veut bénir une femme, autant une femme qui est mariée que des enfants, autant une femme qui est mariée, qui peut-être ne pas avoir d'enfant, qu'autant une femme qui est célibataire ou qui est seule. Dieu veut te bénir. Peu importe la situation que tu vis actuellement, Dieu veut te bénir. Toi qui es une femme, Dieu veut te bénir. Et il désire que tu aspires à ce que tu sois une femme vertueuse. Et nous autres autour qui entourent ces femmes-là, Dieu veut qu'on les reconnaisse et qu'on leur dise qu'on puisse les louer. Alors, ce matin, je vais vous raconter quelque chose par rapport à un jeune homme qui était ici à l'église il y a une quinzaine d'années. Et à l'époque, il y a plus longtemps que 15 ans, là, quand il était en secondaire 5, ce jeune homme, il était dans ma classe où j'enseignais, et puis il était vraiment, c'est quelqu'un qui était vraiment consacré, même son tout jeune âge, là. Il avait lu la Bible dans une année, il avait tout lu la Bible, alors que moi-même, je ne l'avais pas tout lu au complet dans l'année, tu sais, puis je lui enseignais alors que lui l'avait fait. Alors, il est en secondaire 5, il grandit, il fait son cégep et tout ça. Il a connu une jeune fille alors qu'il était dans son adolescence. Et puis, cette jeune fille aussi l'a connu, puis il n'a pas connu d'autres hommes que lui. Alors, lui, il n'a pas connu d'autres filles que lui. Et puis là, il était plus vieux un petit peu, puis il avait comme projet de se marier. Alors, il vient me voir, puis c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le Seigneur. Il vient me voir avec sa Bible. Et puis, il était perplexe. Il ne voulait pas se tromper. Alors, il vient me voir, puis il m'apporte 1 Corinthiens, chapitre 7. Et peut-être, vous n'êtes pas nécessairement y tourner, mais dans 1 Corinthiens, chapitre 7, il me cible les passages du verset 1 jusqu'au verset 9. Et je vais juste vous donner 3 extraits de où il a attiré mon regard. Ici, c'est Paul qui parle. Paul dit, au verset 1 de 1 Corinthiens 7, « Qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. » Et un peu plus loin, au verset 7, il dit, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. » Paul était soit qu'il avait déjà été marié et qu'il était veuf, ou peut-être qu'il était tout simplement célibataire. Alors, Paul dit, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. » L'un d'une façon, l'autre d'une autre façon. Et au verset 9, Paul dit, en terminant, il dit, « Mieux vaut se marier que de brûler. » Ici, brûler, c'est pas brûler en enfer, c'est plus brûler de désir pour l'autre personne. Si tu es dans une situation où tu es jeune, tu n'es pas marié, et tu brûles de désir pour l'autre personne, puis que tu, dans le fond, tu te maries pas, mais tu brûles de désir, ça t'amène à pécher, tu te relèves, tu continues, tu retombes, tu te relèves. Bien, au lieu de vivre une vie comme ça, c'est bien préférable que tu te maries. OK? C'est ça que ça veut dire ici. Alors, je reviens à mon jeune homme qui était, il cherchait un peu un conseil. Mais là, je lui ai dit, écoute, cette jeune fille, tu la connais depuis, deux, trois, quatre ans, et puis ton cœur est tourné vers elle, c'est la même chose. Puis lui, il cherchait vraiment la volonté de Dieu. Il se demandait, est-ce que je devrais renoncer à cet amour, puis me consacrer entièrement pour Dieu, comme Paul le dit? J'ai dit, si ton cœur est tourné vers elle, c'est un projet de mariage, vas-y mon gars, go! Effectivement, il y a eu mariage, ils sont toujours ensemble, ils ont eu un ou deux enfants, là, je ne me rappelle pas exactement, ils sont rendus à deux. Et c'est un beau couple qui fonctionne bien dans son église locale, un couple engagé. Il n'y a pas d'amen? Y a-t-il un amen ici?
OK.
Maintenant, comme on a vu tout à l'heure, Dieu veut pour toi qui es une femme que tu sois une femme vertueuse. On va voir ce matin trois caractéristiques, trois grands V qui caractérisent bien une femme vertueuse. Premièrement, une femme vertueuse, ça commence avec le grand V de vertueuse. La première caractéristique d'une femme vertueuse, c'est qu'elle a de la valeur. Premier grand V, c'est une femme de valeur qu'on retrouve dans le verset 10, toujours dans Proverbes 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Dans vos traductions, vous avez peut-être « Qui peut trouver une femme courageuse » ou « Une femme de valeur » ou « Une femme vaillante » ou « Une femme parfaite ». Vous avez ça dans vos diverses traductions. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Un collier de perles, là, de vraies perles, pas de plastique, là, de vraies perles, ça a toute une valeur. Une femme vertueuse a beaucoup plus de valeur que les perles. Dans le proverbe, il dit aussi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et ça, c'est une grâce qui vient de l'Éternel. C'est une bénédiction. Au verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Les produits, c'est les conséquences, c'est les résultats de cette confiance qu'il y a entre l'homme et la femme, entre la femme vertueuse et son mari. Il y a une confiance qui est là. Cette femme vertueuse-là lui fait du bien, au verset 12, et non du mal. Et ça, tous les jours de la vie. Pas seulement quand ils vont partir aller faire une semaine de counseling dans un cœur à cœur, puis là, ils reviennent booster, puis là, ils sont aux petits soins les uns un envers l'autre, puis c'est la petite lune de miel, puis c'est beau. Mais ici, la femme vertueuse a une constance. Elle fait du bien à son mari et non du mal, et ça, tous les jours de sa vie. Wow! La lune de miel, tous les jours de sa vie. Il n'y a pas d'amen? Mari et femme, papa et maman, vous êtes dans la même équipe. Vous jouez dans la même équipe. Vous êtes coéquipiers un l'autre. Faites-vous la passe. Il faut marquer le but là-bas. Vous n'êtes pas des adversaires. Vous n'êtes pas des équipes adverses. Vous êtes dans la même équipe. Et vous travaillez pour le même but de construire une famille solide pour Christ, de construire des enfants qui vont, eux autres, à leur tour, construire une famille solide pour Christ. C'est votre but. Vous êtes... Il y a pas dans, oui, il y a des « Amen ». Vous êtes dans la même équipe. Il n'y a pas d'adversité. des fois, dans le hockey, on voit une bataille de hockey. La plupart du temps, c'est une couleur avec une autre couleur, un gilet rouge avec un gilet blanc. J'ai rarement vu, moi, deux gilets rouges ensemble se battre au hockey. C'est vrai? Non, c'est vrai. Ils sont dans la même équipe, ils ne vont pas se battre ensemble, ils vont se battre contre l'adversaire. OK? Quand, pardon? Ah, dans les pratiques? Ah! Dans les cours de préparation au mariage, peut-être? C'est là qu'il faut que les bobos ressortent. Après, on est dans la même équipe. La femme vertueuse a de la valeur. A de la valeur. Alors, c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre par ces trois versets. La femme vertueuse a de la valeur. Maintenant, l'autre grande caractéristique de la femme vertueuse, elle est vaillante. C'est ce qu'on voit au verset 13. Elle se procure de la laine et du lin, et elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève alors qu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et elle donne la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Aujourd'hui, on dirait qu'on la rencontrerait peut-être au gym. Au verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. On parle ici d'un métier à tisser de l'époque. Au verset 21, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Ici, le cramoisi, souvent, on fait référence à une couleur, mais ici, dans le contexte, c'est plus une genre de tenture, une genre de tenture, oui, mais à double épaisseur, pour la protéger du froid. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Verset 22. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Verset 24. Elle fait des chemises et elle les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Ici, on parle d'une femme qui est active, une femme qui est vaillante, qui travaille dur, une femme d'affaires, une femme prospère, qui pense à un champ, elle considère, elle l'achète, elle plante une vigne, une femme vraiment, une femme vertueuse et une femme vaillante. Je vais vous donner un exemple. Il y a peut-être, je pense, une quinzaine d'années aussi, à peu près. Ouais. Il y avait un jeune homme, toujours, pas de même, là, ici à l'église, un jeune garçon qui était zélé pour la parole de Dieu, qui avait un beau don d'évangéliste et qui témoignait sa foi avec enthousiasme. Et puis, il va passer, je crois, une journée. Chez une famille, une grosse famille, il y avait le parent, le père, la mère, ainsi que 5 garçons dans la famille. Alors, il va chez eux, et puis, il arrive là, puis il commence à avoir son zèle, comme d'habitude, et c'est bien. Il parlait du Seigneur, et puis, il continuait. Là, le temps du midi arrive, alors il mange. Et puis là, les 5 gars dans la famille, les autres, ils s'activaient à des travaux autour de la maison. Et puis là, après avoir mangé tout ça, les gars s'en vont travailler. Puis lui, il continuait à parler. Puis bon, là, à un moment donné, la mère, elle l'a ramassé, façon de parler. Elle dit, écoute là, elle dit, t'as bien mangé, tout ça, bon, c'est bon, OK. Là, il dit, garde. « Va trouver mes gars dehors, ils ont besoin d'aide. » Tu sais? Fait que lui, une semaine après, dans la fin de semaine qui a suivi, il me raconte ça, il me dit, « Hey, j'ai été chez une famille, cette famille-là est pas spirituelle. » Je dis, « Quoi? Telle famille que je connais bien est pas spirituelle. Qu'est-ce que tu veux dire? » Fait que là, il me raconte le détail un peu. Mais je dis, « Écoute, mon cher, considère les choses, fais la part des choses. Prends une maman qui est dans son livre de recettes, Là, elle lit ses recettes, elle les médite, elle va sur Internet, elle les compare avec d'autres recettes, puis elle les apprend par cœur, puis elle étudie ses recettes. Elle les étudie à la journée longue, à la semaine longue. Ses enfants sont là, ils se meurent de faim. Mais elle est dans son livre de recettes. Tu sais, dis-moi, à un moment donné, là, faut que tu lèves les mains, là, puis tu les mettes dans la pâte. Faut que tu la fasses, la job, la popote. Faut que tu la fasses, ta recette. Mais c'est un peu pareil avec la parole de Dieu. Dieu veut qu'on en soit imbibé, qu'on la lise, qu'on la médite et qu'on en soit vraiment imbibé. C'est ce que Dieu veut. Mais aussi, également, en même temps qu'il veut ça, il veut que tu marches et que tu vives et que tu vives l'Évangile en réalité. Que tu parles, que tu travailles, que tu fasses que tu voudras, mais que tu sois comme Christ était sur terre. Quand Christ était sur terre, il était charpentier. Il avait un travail manuel avec son père Joseph. Il travaillait le bois. C'était c'est manuel, ça. Mais Jésus était spirituel. Paul, l'apôtre Paul, il faisait des voyages missionnaires. Un grand ministère que Paul a eu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il fabriquait des tentes. C'est une autre affaire manuelle. Le travail manuel, les métiers, tout ça, c'est bon, ça fait partie de la vie. Et c'est spirituel. Alors, j'ai expliqué ça, puis finalement, cette famille-là, elle est très spirituelle, et c'est une colonne dans l'Église, cette famille-là. Il faut juste faire la part des choses. Il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, je crois que la volonté de Dieu pour une mère, c'est qu'elle puisse se consacrer pleinement à sa tâche de mère. Et j'aimerais, on va le voir ensemble, dans Paul, quand Paul s'adresse à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 14. Vous pouvez tourner ou je vais simplement vous le citer ici. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 14, Paul dit: « Je veux donc que les jeunes, en parlant des jeunes filles, puissent se marier. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. » Paul, un peu plus tôt, au verset 10 du même chapitre, il donne des critères pour une veuve, afin qu'une veuve puisse avoir un soutien dans son Église. Voici ce qu'il dit comme critère de ces personnes, de ces veuves. Il dit, il faut qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé ses enfants, exercé l'hospitalité et ainsi de suite. Et Paul également, dans Tite, au chapitre 2, versets 3 à 5, voici ce qu'il dit par rapport aux femmes plus âgées. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues dans leur conduite, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ici, je crois réellement que la sphère où la femme doit s'activer, se préoccuper, le premier niveau qu'elle doit se préoccuper, c'est au niveau de son foyer, au niveau de sa maison, sa famille. C'est son premier investissement, si on veut. Les versets qu'on vient de voir nous amènent à une question, maintenant, une question que, je dirais, la question qui tue. Tu sais, si les lumières pouvaient s'éteindre puis revenir, là, on aurait la question qui tue. Et c'est une question difficile. Et j'ose l'aborder, mais c'est quand même une question difficile. C'est la question de t'es une mère, t'as des enfants en bas âge. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu demeures à la maison ou tu vas sur le marché du travail? Ça, c'est la question qui tue, dans le sens qu'elle est difficile, cette question-là. Elle est difficile à répondre. Et ici, je voudrais pas mettre un fardeau ou porter un jugement sur une femme qui a choisi un ou l'autre? Ce n'est pas une question qui se répond oui, non. C'est une question difficile. C'est une question où je vais répondre c'est oui et c'est non. Parce qu'il y a tellement, c'est toujours un cas particulier. Chaque cellule familiale est différente de l'autre. Elle vit, elle a un pattern qui est différent. Elle a une réalité différente. Également, il y a le type de travail que la femme peut-être pourra avoir ou non. Est-ce que c'est un temps plein, un temps partiel? Est-ce que c'est un travail qu'elle peut faire à la maison, s'il garderait à la maison ou autre? Tu sais, il y a plein de cas particuliers. Alors, c'est pour ça que chaque cas est particulier. Et dans le fond, ça se passe entre la maman et Dieu. Ici, je ne veux pas emmener, encore une fois, je ne veux pas emmener un jugement. Ça se passe entre la maman et Dieu. Mais c'est une question quand même qui est posable, ou c'est la question même qu'on doit se la poser. Elle est difficile à répondre, mais on doit se la poser. Ici, ce que je vais faire ce matin, je vais emmener comme 4 ou 5 éclairages pour vous aider, dans le fond, à regarder cette question-là, à pouvoir y répondre, chacun pour soi. Considérez, de un, vos enfants pourraient être élevés par quelqu'un d'autre s'ils sont dans une garderie. À ce moment-là, quelle valeur est-ce qui va être donnée à ton enfant? Quand ton enfant va mentir, exemple, est-ce qu'il va être repris à chacun de ses mensonges? Si ton enfant, par exemple, arrache l'objet de son voisin, est-ce qu'il va être repris? Quand il va être entré en colère, cet enfant-là? Comment est-ce qu'il va être corrigé? Tu sais, il se passe tellement de choses dans la vie d'un jeune enfant. Il a besoin d'être instruit. Et plus souvent sa maman est proche, mieux ça sera. Deuxième point d'éclairage que j'aimerais apporter. Parce que personne n'aimera ton enfant comme sa propre maman. Sa maman, là, elle l'aime d'une façon particulière. C'est le fruit de ses entrailles. C'est l'objet de ses vœux. Elle l'aime d'une façon particulière. Il n'y a jamais aucune autre personne, aussi douée soit-elle, avec des diplômes longs comme le bras, elle ne pourra jamais l'aimer autant que sa propre maman. Le psychologue Jean Piaget affirme ceci, je donne la citation. Sur le plan social, la mère est spécifiquement nécessaire à partir du 7e mois. Avant le 7e mois, elle est moins nécessaire, selon lui. Il dit, c'est un psychologue, il dit, le nourrisson aura besoin de sa propre mère, il suppose après le 7e mois, aura besoin de sa propre mère pour son sens de la sécurité et son sens social, ou alors on constatera chez lui un dommage émotionnel et intellectuel. Alors c'est Jean Piaget, psychologue, qui dit ceci. Ça demande à réflexion. Un autre éclairage que j'apporte sur la problématique, c'est que la structure émotionnelle et intellectuelle d'un enfant est complètement formée dès l'âge de 7 ans. Autrement dit, tout se passe entre 0 et 7 ans. Toute la construction se passe là. Les pères jésuites avaient coutume de dire « Donnez-nous un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans et nous l'aurons gagné. » Dans ce sens qu'on va faire de quoi avec. Si tu nous le donnes, on va l'élever, nous autres, de 0 à 7 ans, puis tu vas voir, il va être correct. Il va être bien parti. Un journal médical écrit ceci. C'est un journal médical, je cite. « Je recommande très fortement à ceux qui parmi vous sont des mères au travail de quitter votre emploi, surtout si vos enfants sont toujours en bas âge. N'ayez pas peur de priver vos enfants de biens matériels, surtout si vous pouvez être près d'eux à la place. » Alors ça, c'est un journal médical qui mentionnait ceci. Maintenant, j'apporte un autre éclairage. C'est que l'éducation chrétienne que tu vas pouvoir leur donner, eh bien, c'est bien plus que l'école du dimanche. Ici, l'école du dimanche, on prend soin de vos enfants, les enseignants sont là, ils se préparent durant la semaine, ils font un travail exceptionnel, mais ça ne remplacera jamais ce que la maman peut passer auprès de son enfant en termes d'enseignement spirituel, en termes de valeur spirituelle qu'elle va placer dans le cœur de son enfant. C'est un bon outil, l'école du dimanche, mais ça ne remplace pas le travail de la maman auprès de son enfant. Maintenant, un dernier éclairage. Ben, juste avant, un sondage qui a été fait par rapport à ce point-là. Un sondage qui a été fait qui disait, qui a démontré que lorsque les enfants ont un grave problème, trois choses. Le tiers de ces enfants-là en parle à leur maman. L'autre tiers en parle à leurs amis. L'autre tiers, il n'en parle pas pantoute. Qu'est-ce que tu aimerais mieux? Si ton enfant vit un problème, un gros problème, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, un gros problème, est-ce que tu aimerais mieux qu'il n'en parle pas, qu'il en parle à son ami ou que sa mère soit disponible auprès de lui pour qu'il puisse lui en parler? Alors, et le dernier point d'éclairage que j'apporte, et je vais terminer cette section-là avec ceci, c'est que dans le fond, tu ne peux pas tout faire. C'est très dur, le travail de mère au foyer, là. La mère avec des enfants en bas âge, c'est très dur. C'est un travail ingrat. Ça ne finit plus. Les couches, la popote, le nettoyage, le lavage. Oups, j'ai tué par moi. Le nettoyage, la bouche de votre enfant. Ça n'arrête plus. Ça ne finit plus. Dernière citation. L'auteur Judy Down Douglas déclare ceci. Le sens le plus important à la fonction maternelle se trouve dans le fait que j'ai l'opportunité de bâtir un être humain. J'aide ce petit bout de chou à grandir pour devenir une personne mature, quelqu'un qui pourra faire face à la vie, qui aura quelque chose à donner à son prochain. Ainsi, je contribue de façon permanente au développement d'une vie. Elle est en train de construire une vie. C'est bon. Maintenant, on a vu que pour les mamans, les mères, pour les femmes en général, les femmes, qu'est-ce qu'on a vu ce matin pour les femmes? Dieu veut que tu sois une femme. Bon. Dieu veut que tu sois une femme. C'est pas assez fort. Dieu veut que tu sois une femme. Oui. Les hommes. Le mois prochain, à fête des pères. Dieu veut que tu sois une femme vertueuse. Et trois caractéristiques de la femme vertueuse, au début, c'est une femme qui a de la valeur. C'est une femme qui est vaillante. Et maintenant, on va voir que c'est une femme qui veille. Une femme qui veille au grain, qui veille aux portes, qui veille à la maison. Toujours dans Proverbes, chapitre 31, verset 20. Cette femme vertueuse, elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens de son pays. Verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. C'est une femme qui a confiance en l'avenir. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Elle veille. Le mot veiller veut dire surveiller, veut dire checker les in and out, les entrées, les allées-venues de ses enfants. Veiller veut dire check-la comme il faut. Surtout en bas âge, la vérification, le check est plus grand, plus qu'il avance en âge. Il y a un petit, on recule un petit peu, mais il y a une supervision qui est faite pareil. Parce que la femme vertueuse, elle veille, elle s'assure, c'est qui tes amis? Qu'est-ce que tu vas faire là? Quel film tu vas regarder? Quel livre tu es en train de lire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand je ne suis pas à la maison, qu'est-ce que tu fais? La femme vertueuse, elle veille sur ce qui se passe dans son foyer. Quel site Internet tu vas voir? Tu sais? Je vais vous donner un exemple je parle de la femme vertueuse qui veille sur son enfant, parce que son enfant, c'est le fruit de ses entrailles. C'est, c'est l'objet de ses vœux. Je vais vous donner un exemple personnel que j'ai vécu quand j'avais à peu près l'âge de 25 ans. Et je demeurais chez mes parents et j'étais dans la cuisine et j'avais une discussion avec ma mère. Et ma mère, je lui disais des choses dures et blessantes. Et je parlais avec ma mère, puis là, j'étais sur le point de sortir. J'ouvre la porte pour sortir à l'extérieur. Et j'étais dans le cadre de la porte et je vois ma mère s'avancer vers moi. Elle a tendu la main comme ça, puis elle m'a frappé, elle m'a giflé. Et pour un gars de 25 ans, une chance, j'étais tout seul avec elle, ça se passait en privé. Mais aïe, ça m'a arrêté dans ma folie. Ça m'a arrêté dans ma folie. Et je suis parti, parce que j'étais trop fâché. Je suis parti. Mais dans le fond, qu'est-ce que ma mère était en train de me dire par ce geste-là? Elle était en train de me dire, André, qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est dur ce que tu me dis. Tu es en train de me blesser. Ça me fait mal. Arrête. Tu dépasses les bornes. Tu es en train de dire des choses qui n'ont pas de sens pour une mère qui t'a porté pendant 9 mois, qui t'a aimé, qui se soucie de toi. Tu vas trop loin. Paf! Tain, mon gars, réveille! Tu sais, réveille! Puis effectivement, j'ai réveillé. J'ai pris conscience que, oh, André, c'est trop. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Envers ta mère qui t'aime. Fait que ça m'a fait... Puis ce souvenir-là, je l'ai toujours dans ma tête. Elle a posé un acte alors que j'étais adulte. Et puis, dans le fond, elle veillait sur moi. Même rendu adulte, il y avait une petite correction encore à donner, un petit redressement à faire pour le mettre sur la bonne traque, sur André-là. Tu sais? Puis merci, maman. Je ne sais pas si elle m'en a peut-être écouté la chose. Peut-être m'avoir dit merci, maman, pour ce que tu as fait. Il y en a ceux qui connaissent Timothée dans l'Évangile, oui. Timothée, que Paul était son. L'a instruit, il était son protégé, on pourrait dire, hein, son mentor. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le nom de la mère de Timothée? Comment? Eunice. Le nom de sa grand-mère? Loïs. Exact. Alors, Timothée a grandi dans un foyer où on parlait du Seigneur Jésus. Probablement que Paul, dans ses voyages missionnaires, avait enseigné Eunice et Loïs. Ils sont devenus des chrétiennes et ils avaient ce petit garçon-là, Timothée. Ils l'ont instruit dans la parole de Dieu et plus tard, Paul l'a pris sous son aile et a continué sa formation. Maintenant, on a vu, premier point, que les femmes, Dieu veut que tu sois une femme, comment? Vertueuse. On a vu les trois caractéristiques. Une femme vertueuse, c'est une femme de valeur. C'est une femme qui est vaillante. C'est une femme qui veille. Et maintenant, pour nous autres, ceux qui restent autour, ce que Dieu nous demande, c'est qu'on puisse les reconnaître, qu'on puisse les louer, ces femmes-là. Et on va terminer avec ceci, dans les 4 derniers versets du chapitre du Proverbe 31, verset 28. Qu'est-ce qu'ils font, les fils de ces femmes vertueuses? Ses fils se lèvent et ils la disent heureuse. Son mari se lève et il lui donne des louanges. Regardez ce qu'il dit. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, là, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Louons ces femmes vertueuses. Il y a un bel exemple, justement, dans Jean, l'Évangile de Jean. Et on va terminer avec ceci. L'Évangile de Jean, chapitre 19. On pourrait y tourner. Dans Jean, chapitre 19, les versets 25, 26 et 27. Il s'agit ici, vous voyez la scène, Jésus est sur la croix. Et Jésus est agonisant sur cette croix. Il est en train de porter mon péché, tes péchés et les péchés de l'humanité. Alors qu'il est suspendu, cloué à cette croix, il porte les péchés du monde entier. Jésus est sans tâche, sans aucun péché, mais il porte tous nos péchés. Et il est là devant le regard de son Père, qui son Père, tranquillement, commence à détourner son regard de lui. Jésus vit des moments intenses, extrêmement intenses. On ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce qu'il pouvait vivre sur cette croix. Et en même temps, au verset 25, dans Jean, chapitre 19, verset 25, « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, alors Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, qui est Jean, il dit, « Voilà ta mère, » en montrant, en désignant Marie. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Vous voyez la scène? Vous voyez Jésus qui est suspendu à cette croix, qui porte le péché du monde entier, qui voit son Père, qui commence à se détourner de lui parce que Jésus s'est fait péché pour moi à cette croix. Dans tout ce temps, dans toute cette émotion qui est là, dans tout ce souci qui est là, ce fardeau qui est sur les épaules, il sait que là, Jésus va quitter cette terre. Et il se soucie de sa mère. Il voit sa mère qui est là. Il pense à elle. Il dit, elle est plus âgée. Elle a des besoins. Joseph est plus là dans le décor, là. Probablement qu'il est décédé. Alors, elle est veuve, Marie, sa mère. Et là, il met ses yeux sur elle et il se soucie de sa condition. Il a un souci de voir comment est-ce qu'elle va finir ses jours sur cette terre. Qui va s'occuper d'elle? Je serai plus là, là. Alors, il la regarde puis il lui montre le disciple qui était auprès de Jésus, le disciple que Jésus aimait, Jean, qui était son grand ami. Il lui dit, Jean, regarde, est-ce que tu vas prendre Marie? Est-ce que tu vas voir, regarde Marie, regarde Jean qui est à côté de toi, prends-le comme ton fils. Et il dit à Jean, prends Marie comme ta mère, comme si c'était ta mère. Alors Jésus avait souci de sa mère, d'être certain qu'elle vit ses derniers jours en sécurité, qu'elle manque de rien. Et on va terminer comme ceci. Prions. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour ce temps ce matin. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait à la croix en pensant à ta mère, en pensant à Marie. Seigneur Jésus, ce matin, fais que tes paroles puissent couler dans nos cœurs. Fais Seigneur Jésus qu'on puisse honorer nos mères, comme toi tu l'as fait, se soucier d'elle, prendre soin d'elle, s'assurer qu'elle ne manque de rien. Elles qui nous ont portés pendant 9 mois, elles qui se sont souciées de notre développement, de notre avenir, celles qui nous ont corrigés avec amour. Merci Seigneur Jésus pour les mères que tu as mises dans cette église, pour nos propres mères à chacun. Merci pour leur intervention. Merci aussi, Seigneur Jésus, fais qu'on puisse être reconnaissant, fais qu'on puisse remarquer dans l'Église ces femmes qui sont vertueuses, fais qu'on puisse leur dire, fais qu'on puisse les encourager, qu'on puisse mettre la main sur leur épaule, leur dire, ma sœur, c'est beau ce que tu fais dans l'Église, c'est beau ce que tu fais dans ta famille, avec tes enfants, qu'on puisse les encourager. Merci, Seigneur Jésus, tu fais tellement de bien à nos âmes, Seigneur Jésus. Amen.